Merci pour cette lecture. Et c'est vrai que la dernière fois, nous avons médité sur Hébreux chapitre 3. Et donc, c'était sur le fait qu'il ne faut pas endurcir son cœur. Il y a des. Je reviens un peu en arrière parce que ces deux chapitres sont très liés. Si vous prenez l'Épître aux Hébreux, vous verrez qu'à part le chapitre 13, c'est un discours continu. Il n'y a pas vraiment de transition. C'est une idée qui s'enchaîne l'une après l'autre. Donc, quand on prend un passage dans l'Épître aux Hébreux, on doit faire attention à tout le contexte de l'Épître aux Hébreux. Pas simplement les quelques versets au-dessus ou en dessous, mais l'ensemble de l'Épître. Parce que toute l'Épître est liée, c'est dans un but que je ne l'ai pas dit la semaine dernière. Et M. Smainville me l'a fait remarquer, donc j'en tiens compte et je vous le dis. L'Épître aux Hébreux est d'abord écrite pour des Hébreux. Alors, c'est les Hébreux qui avaient ils pratiquaient ce que l'on appelle le judéo-christianisme. Et la tentation judéo-chrétienne s'est poursuivie et elle se poursuit encore aujourd'hui, c'est de revenir à ce que Dieu a aboli. Alors, de revenir à la loi de Moïse et aux pratiques judaïques. Et alors, l'Épître aux Galates est écrite à des chrétiens qui voulaient mettre en pratique la loi de Moïse et qui revenaient aux pratiques, alors avec les observations de jours, de mois, d'années, etc. Vous connaissez l'Épître aux Galates. Et ça, c'est pour des chrétiens du paganisme. Mais la première église, eh bien, a été tentée parce que la première église, c'était des juifs, hein. C'est les premiers chrétiens, les vrais premiers chrétiens, c'était des juifs. Et alors, il y avait un parcours entre l'église et la synagogue, ou l'église et le temple. C'était un problème. Alors, l'épître est écrite justement pour ces chrétiens qui perdaient courage parce que ils ne trouvaient pas leur repère. Bon, je ne veux pas entrer dans beaucoup plus de détails, mais le mot qui caractérise l'épître aux Hébreux, c'est la foi. Nous marchons par la foi. Et donc tout ce que vous voyez, tout ce que vous trouvez, vous verrez, ça a rapport avec la foi. Et le grand chapitre sur la foi, c'est le chapitre 11. C'est même le plus grand chapitre de la Bible sur la foi. C'est le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Et même, je me rappelle, c'est quelqu'un qui avait fait la philosophie. Et premier cours où on parlait de la foi. Et alors le professeur a dit, la meilleure définition de la foi se trouve dans la Bible. Et au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux et le verset 1. Voilà. C'est donc ne perdez jamais quand vous lisez l'Épître aux Hébreux le mot foi. Il s'y trouve constamment. Et alors le problème, c'est que ces chrétiens, eh bien, ne voulaient pas sauter le pas et ne voulaient pas laisser de côté ce qui était passé. Et qui n'avait plus de raison d'être pour saisir ce que Dieu avait prescrit pour eux en Jésus-Christ. Alors il fallait passer de la loi à la grâce. Et c'était de passer de la pratique, des pratiques visibles, pour des pratiques qui ne sont pas visibles. C'était le peuple d'Israël offrait des sacrifices, offrait des holocaustes. Il y avait les fêtes qui ponctuaient cette l'année, hein. 7 fois par an, il y avait des grandes rencontres. Il y avait beaucoup de choses comme cela qui étaient visibles. Mais à partir du moment où nous sommes en Jésus-Christ, ce qui est visible disparaît pour ce qui est spirituel. Et ce qui est spirituel étant invisible, eh bien c'est par la foi. Uniquement par la foi. Ça ne voulait pas dire que le peuple d'Israël, dans les pratiques judaïques, eh bien, ne devait pas marcher par la foi. Et d'ailleurs, dans l'Épître aux Hébreux, cela est reproché et le rappel du reproche est fait. Et je vous lis de nouveau le verset 2 du chapitre 4. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Et cette parole sonne comme un glas, comme quelque chose de funèbre. C'est le peuple d'Israël n'a pas obtenu toutes les promesses que Dieu avait en réserve pour eux, simple pour lui, tout simplement parce que il n'y avait pas de foi. Il ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Et c'est le constat d'un échec, de quelque chose qui ne s'est pas réalisé complètement. C'est au lieu d'être la lumière des nations, au lieu d'être ceux qui vont par toutes les nations pour annoncer l'évangile, eh bien, ils ont été centrés sur eux-mêmes et pratiqué les religions de leur peuple, des peuples qui étaient autour, et Dieu a dû même les châtier, alors qu'ils auraient dû aller propager la foi au vrai Dieu et aller proclamer la venue du Messie, etc. Ils ne l'ont pas fait. Et c'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas de foi. Il n'y avait pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Et je peux vous dire, comment dire, n'ayez pas une pensée négative par rapport au peuple d'Israël, mais dites-vous bien que nous sommes concernés nous aussi. La parole de Dieu, qui est annoncée souvent, ne nous sert de rien parce qu'elle ne trouve pas de foi en nous. La foi, c'est un acte de volonté. Beaucoup de chrétiens attendent la foi et ils espèrent avoir de la foi ou ils prient pour avoir de la foi. Mais la foi est un acte de volonté. Je décide de croire et de m'appuyer fermement sur la parole de Dieu. Et c'est là que les choses changent parce que nous avons tous de la foi. Quand nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur, quand nous sommes nés de nouveau, eh bien nous avons aussi eu la foi. Il n'y a pas de chrétien qui n'a pas de foi. Il y a des chrétiens qui baissent les bras, qui sont découragés, parce qu'ils ne regardent pas à Dieu, ils ne prennent pas Dieu au sérieux, ils ne prennent pas la parole de Dieu au sérieux, alors leur foi est médiocre. Mais à partir du moment où on recentre les choses dans leur vraie valeur et leur vraie perspective, eh bien la foi est là. Parce que c'est Dieu nous a donné la foi. Et donc un chrétien, eh bien, doit décider et de dire maintenant, je vais vivre par la foi. Maintenant, je vais me confier en Dieu. Je vais regarder vers Dieu. Et je peux, c'est ce que j'appelle parfois, hein, c'est placer sa foi. C'est il y a un moment où on dit, voilà, je suis dans telle situation. C'est vrai que c'est difficile. Il y a ça qui est négatif, ça qui ne va pas, cette chose-là et cette chose-là. Je décide d'avoir la foi. Dieu, c'est le grand Dieu. Rien n'échappe à son regard. Il m'aime infiniment. Il ne cessera jamais de m'aimer. Même si je suis tombé gravement, Dieu ne cessera jamais de m'aimer. Et il m'appelle son enfant et je le resterai et je le suis toujours. Les promesses de Dieu sont aussi vraies aujourd'hui qu'elles étaient vraies dans le passé. Ça, ce sont des points forts. C'est incontournable. Et alors, on dit, en vue de ces choses, eh bien, je veux avoir la foi. Je me confie en Dieu. C'est la volonté d'avoir la foi. J'appelle cela placer sa foi. On dit, voilà, je décide de faire confiance à Dieu réellement. Ce n'est pas demain, ce n'est pas peut-être, ce n'est pas quand j'aurai plus de foi, mais c'est maintenant. Je décide de me confier à Dieu. Et ce qui est important, c'est de méditer et d'approfondir la parole de Dieu et de voir tous ces passages où Dieu parle d'une manière positive de ce qu'il veut faire pour nous, de ce qu'il va faire et de ce qu'il a promis. Et à partir de là, eh bien, on s'appuie fermement sur la parole de Dieu et sur le caractère de Dieu et sur notre position en Christ. Je ne vois pas une raison négative pour laquelle nous n'aurions pas la foi. Parce que nous avons tout, pas plus que ceux qui nous ont précédés, mais pas moins. Nous avons exactement les mêmes choses. Les générations sont passées les unes après les autres, et nous sommes arrivés aujourd'hui à notre génération, à cette époque contemporaine. Nous sommes maintenant à un jour D, et ce jour-là, eh bien, les promesses de Dieu n'ont pas plus changé que du temps des apôtres. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas devenu différent. Le ciel de Dieu, eh bien, reste toujours le même. Il y a toujours les mêmes promesses. La parole de Dieu que nous avons entre les mains n'est pas différente de celle que prêchaient les apôtres. C'est quelque chose de très très important de bien comprendre et de. J'ai entendu combien de fois des paroles, même j'ai entendu même un coup de téléphone cette semaine. Il me dit, oh, vous, tu sais, les temps sont difficiles maintenant. Mais du temps des apôtres, les temps étaient difficiles. Quand n'avons-nous pas connu des temps difficiles? Toujours il y a eu des temps difficiles. Tout dépend même des latitudes. Il y a des latitudes où les temps sont plus difficiles que dans d'autres. Du temps des apôtres, eh bien, c'était difficile d'être chrétien et de dire, je suis chrétien. Il y a même des gens qui sont morts pour leur foi. Et aujourd'hui, ben, il y a encore des gens qui meurent pour leur foi, parce qu'ils sont chrétiens. Je ne vois pas où est la différence. La seule différence, c'est dans notre manière de faire, dans notre manière d'agir. Il y a un esprit de défaitisme qui est entré dans le cœur des chrétiens, si bien que nous avons perdu de vue toutes les ressources, toutes les promesses, tout ce que Dieu en réserve pour nous, nous l'avons mis de côté. Et nous nous appuyons sur notre bon sens, sur ce que nous percevons, sur ce que nous voyons. Mais exactement, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est de placer sa confiance dans ce que l'on voit. Parce que Satan va vous présenter des multitudes de fantômes qui vont vous effrayer et vous allez perdre votre confiance en Dieu. C'est malgré tout, on décide de croire en Dieu et de placer sa confiance en Dieu. Ça, c'est quelque chose de très important dans notre vie chrétienne. C'est de comprendre que Dieu reste le même. Et c'est dans cet épître aux Hébreux qu'il est dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous sommes à la fin du monde? Non. Est-ce que l'éternité est finie? Si vous pouvez trouver une fin à l'éternité, alors vous êtes plus fort que Dieu lui-même parce qu'il a dit que l'éternité n'a pas de fin. Et lui est éternel, il n'a ni commencement ni fin. Pour nous, il y a l'éternité devant nous. Nous devons garder toujours à l'esprit les promesses de Dieu et le caractère de Dieu. C'est vrai que bon, ben, nous avons devant nous un monde difficile. C'est vrai que nous avons devant nous des multitudes de choses qui nous troublent. Nous avons des pressions. Nous avons. Mettez un nom, le nom que vous voulez. C'est la philosophie, c'est l'humanisme, c'est la franc-maçonnerie, c'est le gouvernement mondial, c'est l'Opus Dei. Allez, mettez n'importe quoi, mais toutes ces choses-là ne sont pas plus fortes que Dieu. Et je peux dire avec Paul, je suis persuadé que rien ne pourra nous séparer de l'amour qui a été manifesté en Jésus-Christ. Vous connaissez ce passage dans l'Épître aux Romains au chapitre 8? Rien ne pourra nous séparer de l'amour qui a été manifesté en Jésus-Christ, l'amour de Dieu. Et il y a Paul fait toute une énumération. Et un jour, comme j'étais petit un peu malin, je me suis dit, mais rien, disons, dans toutes ces choses-là, eh bien, il y a une personne qui n'est pas mentionnée. C'est moi. Peut-être que je peux me séparer, moi, de l'amour de Dieu. Et après, il termine et il dit, aucune créature. Aucune créature. C'est-à-dire que même moi, eh bien, je ne peux pas me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est une vérité absolue, incontournable. Quoi que vous ayez fait, quoi que vous soyez, quoi que soit le monde, Dieu restera toujours le même. Il ne changera pas. Il est le Dieu saint, le Dieu juste, le Dieu rempli d'amour, le Dieu plein de miséricorde, qui veut le bien de ses créatures, qui veut nous secourir, qui veut faire des choses merveilleuses en notre faveur. C'est notre Dieu. Et c'est ce Dieu-là que nous adorons. C'est le Dieu de la Bible, le Dieu qui nous est enseigné dans la Bible. Le problème, c'est que les chrétiens de notre époque ne connaissent pas Dieu, ou le connaissent mal. Ils le connaissent sous un angle qui est négatif. C'est comme un Dieu partial, comme un Dieu qui fait du favoritisme, un Dieu qui a des caprices. Il fait du bien à l'un, mais il a décidé peut-être qu'il ne fera pas de bien à l'autre. Alors est-ce que moi je suis quelqu'un à qui Dieu va faire du bien? Il a choisi de toute éternité de me faire du bien ou de pas me faire de bien. Ça va réussir ou ça réussira pas? Ah, Dieu l'a décidé, c'est comme cela. Donc il y a un certain fatalisme qui est entré dans nos esprits et il faut le combattre vigoureusement, avec acharnement même parfois, parce que il est insidieux et il se glisse même dans nos conversations, même dans nos pensées. C'est quelque chose qui se glisse et qui détruit notre vie chrétienne, qui détruit notre vie de prière, qui détruit notre témoignage, qui nous empêche d'aller plus loin. C'est quelque chose de très grave, vous savez. Et même ces idées sont propagées dans la littérature chrétienne, évangélique. Vous achetez de bons livres bien chrétiens dans les librairies chrétiennes, vraiment, vous dites, ah, mais c'est merveilleux, j'ai acheté un livre chrétien dans une bonne librairie chrétienne. Aïe, aïe. C'est à un certain moment, vous vous rendrez compte de tout ce qui est négatif dans ce livre. Et même parfois, vous ne vous rendez même pas compte. Parce qu'on lit plus facilement la littérature chrétienne que la parole de Dieu elle-même. Et c'est dommage, parce que c'est le livre qui doit être notre lecture favorite, c'est la parole de Dieu. Nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Ce n'est pas. Et quand je prononce ces mots, je dis la parole de Dieu. Souvent on dit la Bible, la parole de Dieu, c'est comme c'est des mots courants. Mais analysez bien ce que vous êtes en train de prononcer. La parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. Ce n'est pas un commentaire sur la Bible. Ce n'est pas qui va changer quoi que ce soit dans notre manière de faire ou dans notre manière d'être. C'est la parole de Dieu. Et il y a beaucoup d'auteurs, comme ils écrivent facilement, et puis ils n'ont pas une vie chrétienne triomphante, ils ont une vie chrétienne médiocre, mais ils écrivent des livres chrétiens, ils ont des pensées chrétiennes. Alors ils vous enveloppent cela, mais leurs livres transpirent leur médiocrité. Et malheureusement, beaucoup d'auteurs chrétiens sont des chrétiens médiocres, qui ne triomphent pas dans leur vie chrétienne. Alors ils vous écrivent un commentaire parce qu'ils ont fait des études de théologie, ils connaissent l'hébreu et le grec, ils ont même un doctorat en théologie et ils savent disserter sur la Bible. Mais ils ne prennent pas la Bible comme une parole vivante, parce que la Bible est vivante. Ce n'est pas un livre humain. Elle est vivante, elle est puissante, elle travaille dans les cœurs, elle change des vies, à condition qu'il y ait la foi. Si nous lisons la Bible et nous la méditons du point de vue théologique, avec un esprit philosophique, une philosophie évangélique, eh bien, nous n'aurons pas les résultats dans notre vie chrétienne que Dieu attend. C'est pour cela que Dieu nous demande de ne pas endurcir nos cœurs. Parce qu'il y a une étape dans la vie chrétienne où Dieu parle et nous montre un chemin. Et nous avons refusé d'entrer dans ce chemin. Nous avons décidé de faire autre chose que ce que Dieu nous demandait. Et alors notre cœur s'est endurci. C'est ce que je vous ai dit la semaine dernière. Le cœur s'endurcit. Et nous ne nous rendons pas compte à quel point notre cœur s'est endurci. Et alors il faut revenir là où nous sommes tombés, mettre les choses en règle et accepter un brisement de ce cœur endurci. Parce que souvent, d'avoir simplement demandé pardon ne suffit pas. Nous sommes pardonnés, en effet, mais nous avons endurci notre cœur vis-à-vis de Dieu. Alors, il faut qu'il y ait un brisement. Et parfois, cela vient avec des épreuves. Et les épreuves nous amènent à fléchir le genou. On reconnaît toujours quelqu'un qui a été brisé. Celui qui a été brisé, est différent de tout chrétien qui n'a pas été brisé. Il y a quelque chose qui se manifeste. C'est le, vous savez, quelqu'un qui a vécu dans les épreuves, quelqu'un qui a été secoué par la vie. Ce n'est pas, on n'en ressort pas intact. Et il y a donc ce brisement. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on peut lire la parole de Dieu d'une manière différente. On se soumet, on fléchit le genou, on ne discute plus la parole de Dieu. Ah oui, mais ce verset est dur. C'est, vous savez ce que disait le peuple d'Israël? Cette parole est dure, qui peut l'entendre? Et ils n'ont plus été avec lui. C'est dans Jean chapitre 6, hein, après la multiplication des pains. Le Seigneur Jésus a dit des choses dures. Qui peut les entendre? Et ils ont décidé de plus marcher avec lui. Et c'est même ce que nous avons lu la semaine dernière. Eh bien, c'est ceux qui ont un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Parce qu'il y a eu cet endurcissement. On a dit non. Jusque-là, oui. Au-delà, non. Vous savez, il y a eu des personnes qui étaient chrétiennes, mais ils l'étaient en secret. Et je pense à, oui, je pense à un auteur chrétien. Bon, j'ai ses livres. Il a écrit Gargantua et Pantagruel. Bon, maintenant, le nom ne me revient pas. Mais Rabelais, voilà. Rabelais était chrétien. Il était né de nouveau. Mais il a dit, moi je suis chrétien, mais pas jusqu'au bûcher. Alors il y a des chrétiens qui ont dit, je suis chrétien jusqu'au bout. Lui, il a mis des restrictions. Je suis chrétien, mais pas jusqu'au bûcher. Voilà. Alors le résultat, eh bien, c'est un auteur chrétien que l'on cite, mais il a essayé de glisser l'évangile dans ses livres. Voilà, c'est tout. Il n'a pas marqué vraiment comme un chrétien. C'est le problème où on décide de marcher avec Dieu jusqu'à un certain point, jusqu'à une certaine limite. Au-delà de cette limite, eh bien on dit non, je ne peux pas. C'est pour cela que le peuple d'Israël est arrivé devant le pays de la promesse et ils ont dit, mais c'est un pays très dur, c'est très difficile, il y a des géants. Il y a beaucoup de choses. Et ils ont discuté. Dieu avait donné une parole. Et cette parole, ils l'ont discutée. Et ils ont pris la décision de transgresser cette parole. Et le cœur s'est endurci. Et alors, Dieu, pour briser cet endurcissement, leur a promis qu'il ferait un séjour dans le désert prolongé. Et même, beaucoup sont morts. Il n'y a que deux de cette génération qui sont entrés dans le pays de la promesse. Tous les autres sont morts dans le désert. C'est la nouvelle génération, la génération suivante, qui a pris possession du pays, qui est entrée dans le pays du repos, dans le pays de la promesse. Voilà. Il y a une étape dans la vie du peuple d'Israël, c'est ce moment où ils ont dit, oh non, non, nous ne pouvons pas accepter, c'est trop dur. Le pays de la promesse, Dieu avait décidé qu'ils rentreraient dans le pays de la promesse, et eux ont choisi de ne pas y rentrer. Et c'est pour cela qu'il est dit, hein, au verset 4, au chapitre 4, premier verset, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Parce que il nous est dit, eh bien, qu'il y a une promesse d'entrer dans le repos. Et c'est de même que le peuple d'Israël avait une promesse d'entrer dans le repos, dans le pays de Canaan, eh bien, nous avons exactement la même promesse d'entrer dans le repos. Beaucoup de chrétiens pensent que Canaan, eh bien, c'est le ciel. Eh bien, détrompez-vous. Si vous avez entendu cela, et même il y a un cantique, hein, qui dit « De Canaan, quand verrai-je le céleste séjour ?» C'est complètement faux. C'est d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi on chanterait encore ce cantique qui est très beau, mais qui est faux. Parce que le pays de la promesse, eh bien, c'est un pays de lutte, de combat. Et c'est le ciel, ce n'est pas le pays, c'est pas la lutte, ce n'est pas le combat, c'est fini. On est dans la présence de Dieu pour l'éternité. Mais là, eh bien, il nous est dit que nous pouvons rentrer dans le repos de Dieu. Et nous avons ce choix devant nous, eh bien, d'entrer dans le repos ou de ne pas y rentrer. Et ce repos, c'est le repos de la foi. C'est le repos où on place notre foi en Dieu et on dit: Seigneur, je te fais confiance. Où tu m'appelles, je vais. Quoi que tu demandes, je le ferai. Je me confie totalement en toi. Tout est remis entre tes mains. Non pas moi, mais toi. Je ne veux pas faire de plan sans te consulter. Je veux faire ta volonté entièrement. Et là, on entre dans le repos de Dieu. Il y a des multitudes de chrétiens qui font des activités sans nombre. Ils travaillent pour Dieu. Et c'est exactement cela. Mais ils ne travaillent pas avec Dieu. Il y a une différence entre travailler pour Dieu et travailler avec Dieu. Et Paul, au contraire, dit que nous devons travailler avec Dieu. À plusieurs reprises, hein, c'est dans deuxième épître aux Corinthiens, il dit: puisque nous travaillons avec Dieu. Mais ces chrétiens décident de travailler pour Dieu. Alors ils ont fait des multitudes de choses. Je me rappelle même d'une série de livres qui est chrétien dans les années 70, qui s'appelait Aventurier pour Dieu. Le titre était malheureux. C'était aventurier avec Dieu qu'ils auraient pu dire, mais pas pour Dieu. C'est pour Dieu, eh bien, il y a Dieu d'un côté et il y a moi de l'autre. Quand c'est avec Dieu, eh bien, nous marchons ensemble. Et nous faisons les choses ensemble. Nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est Paul qui dit cela, hein. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous marchons avec Dieu. Nous sommes liés avec Dieu. Exactement, c'est l'image d'un attelage où vous aviez deux animaux qui étaient attelés pour tirer quelque chose et ils étaient attelés ensemble. Et l'un et l'autre marchaient ensemble. Et c'est cela, marcher avec Dieu et travailler avec Dieu. Nous avons comme collaborateur Dieu lui-même. Ce n'est pas un être humain, c'est Dieu. Et c'est très important de comprendre ces choses-là parce que vous pouvez partir dans des multitudes d'activités et manquer l'essentiel. Et à la fin de votre vie, vous pourrez dire: mais j'ai brassé le vent, j'ai fait des multitudes de choses et finalement je suis arrivé à rien. C'est beaucoup de chrétiens font ce constat-là. Et je me rappelle même d'un chrétien qui est très connu, hein. Il disait: ce que j'ai manqué dans ma vie, c'est de prier. Eh oui, parce qu'il avait tellement d'idées, tellement de projets, tellement de choses qu'il pouvait faire, et il les a faites. Il a accompli beaucoup pour Dieu, mais pas avec Dieu. Si bien que le résultat, eh bien, était médiocre. Et même parfois, eh bien, leur œuvre se finit avec eux. Quand ils ont fini, eh bien, leur œuvre disparaît. Parce que ce qui maintenait l'œuvre en place, c'était leur personnalité, c'était leur don, c'était leur capacité à faire les choses. Mais il leur a manqué de travailler avec Dieu et de mettre Dieu en avant. Et que ce soit Dieu qui ait la gloire, et Dieu qui soit reçu, et Dieu qui soit vu. Donc quand nous arrivons à cette étape, parce que ce n'est pas une expérience dans la vie chrétienne, c'est une étape de la vie chrétienne. Et on apprend à remettre tout entre les mains de Dieu, et à regarder vers Dieu, et à se confier en Dieu, et à faire que ce soit Dieu lui-même. Seigneur, je suis avec toi. Je veux marcher, envoie-moi et j'irai. C'est ce que Ésaïe disait, hein. Le Seigneur dit: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et Ésaïe a répondu: me voici, envoie-moi. C'est très important d'entendre cette voix de Dieu qui vous dit. Et puis, vous savez, la voix de Dieu, quand vous avez décidé de marcher dans le repos et de vous confier en Dieu et de faire tout ce que lui demande, eh bien, vous entendez sa voix constamment. Ça vous arrête, hein? La petite voix, j'appelle ça comme ça, hein? La petite voix qui vous dit: prie. ou la petite voix qui vous dit parle. Regarde cette personne, prie pour elle. Regarde cette multitude, prie pour eux. Et vous avez peut-être des temps de prière, mais vous priez sans cesse, comme dit Paul, hein. Priez sans cesse aux Thessaloniciens, priez sans cesse. Mais quand vous marchez dans le repos de Dieu, dans ce vrai repos de Dieu, eh bien, la petite voix vient vous dire, prie. Vous priez sans cesse. Vous pouvez, quand c'est fini, c'est fini. Mais vous êtes toujours prêt à prier. Vous êtes toujours prêt à parler. Vous êtes toujours prêt à agir. Vous êtes toujours prêt à aller dans la direction que la petite voix vous indique. C'est quand vous lisez les évangiles, vous vous rendez compte d'une chose. C'est que jamais il est question du Seigneur, que le Seigneur Jésus dit « Je vais chercher la volonté de Dieu, la volonté de mon Père. Je vais chercher la volonté de mon Père. » Alors il y a beaucoup de chrétiens qui vous disent « Il faut que je sache la volonté de Dieu. » Mauvais chemin. Le Seigneur Jésus n'a jamais prononcé une pareille parole. Parce qu'il était en communion complète avec son Père et il a dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et quand nous marchons dans ce repos de la foi et où nous disons « Seigneur, envoie-moi, fais de moi ce que tu veux, conduis-moi dans toutes les directions que tu veux, je suis à ta disposition », alors on n'est plus en train de se poser la question « Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je parle ou est-ce que ce n'est pas la volonté de Dieu ?» Mais au fond de vous-même, vous le savez. Il y a cette petite voix qui vous dit « Fais-le, va dans cette direction. » Mais vous ne pouvez même pas expliquer parfois. Hein. C'est pourquoi. Je me rappelle j'ai dû la raconter cette petite histoire hein, parce que c'était quelque chose d'assez particulier. J'attendais un train parce que quand je vais prendre un train, je suis toujours largement en avance. J'aime pas courir pour après les trains. Mais donc j'étais tranquillement assis en train de boire un café et j'ai même photographié des moineaux qui venaient sur ma table hein, juste devant moi. C'était très intéressant. Et puis à ce moment. Et j'ai levé la tête parce qu'il me semblait que quelqu'un me regardait. Alors je lève la tête et en effet, il y avait une jeune fille qui avait les regards sur moi. Bon, alors je me suis dit, il n'y a rien à regarder qui me regardait. Bon, mais à chaque fois, mon regard se levait parce que je sentais, on sent le poids du regard. Et alors, à la fin, je lui dis non, elle ne me regarde pas, mais elle regarde plutôt le tableau d'affichage de l'autre côté. Parce que moi, je voyais d'un côté, je m'étais assis juste à côté du tableau d'affichage, et elle le regardait de l'autre côté. Et voilà. Et alors, je me suis rassuré avec cette histoire-là. Et puis, bien sûr, à chaque fois, je sentais quand même ce regard. Et puis, à un certain moment, j'ai vu un gaillard s'asseoir à côté d'elle, mais à la toucher. Hein. Alors, la petite voix m'a dit « prie ». Alors, parce que je me dis, elle va avoir des problèmes. Alors, j'ai prié pour elle. Et puis, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais bien qu'un jour, elle te connaisse, qu'elle soit sauvée et qu'elle soit née de nouveau, qu'elle puisse être réconciliée. Ce n'est pas simplement d'être en sécurité à l'instant même, mais on souhaite que la personne même entende l'évangile. Et alors, voilà. Et puis, une fois que j'ai prié, eh bien, mon train s'est affiché. Alors, j'ai pris mes bagages et je suis allé directement à mon quai. J'ai trouvé ma place, je me suis installé et tout cela. Et puis, la jeune fille, mais alors, ça s'appelle oublié, de chez oublié. Hein. Je n'ai plus du tout pensé à elle. Et je lève les yeux, je la vois monter dans le wagon. Alors, je dis, Seigneur, tu n'es pas en train de me dire qu'il faut que je lui parle. Alors, elle cherchait les numéros, elle regardait, elle se rapprochait de plus en plus. Alors, je me suis levé et je lui ai dit, je crois, mademoiselle, que votre place est là. Alors, elle a regardé le numéro, c'était juste à côté de moi. Ah, mais oui, c'est vrai. Et c'est à dire, je dis, Seigneur, tu me prends au mot, là. Et alors, quelques temps avant, j'avais pris un Nouveau Testament. Parce que je voulais travailler sur... c'est un Nouveau Testament qu'on distribuait à l'époque. Je l'avais pris parce que je voulais souligner et travailler un petit peu sur un texte. Et puis, bon, ça ne s'est pas fait. Alors, je l'avais toujours dans ma sacoche. Et je commençais à me parler. Elle m'a demandé si je parlais l'anglais. Alors, je lui ai dit avec beaucoup de difficultés, mais un peu. J'essaye de me débrouiller. Et alors, je lui ai dit ça en anglais, bien sûr. Mais elle m'avait parlé en français, parce qu'elle m'a dit qu'elle parlait mieux l'anglais que le français. Et elle m'a dit qu'elle était polonaise. Voilà. Alors, je lui ai dit, malheureusement, je parle très mal l'anglais parce que je l'ai appris tout seul et pour le lire, mais pas pour le parler. Alors, je lui dis, même comme cela, je suis en train de lire un livre qui dépasse mon anglais et je consulte le dictionnaire constamment. Et je lui ai montré le livre, c'est un livre chrétien. Et je lui dis, est-ce que vous êtes chrétienne? Alors, elle réfléchit. Elle m'a dit, je suis catholique. Voilà. Alors, on a commencé à parler. Et puis, elle s'est moquée de moi pour me disant que mon anglais, c'était du français. Que je parlais le français en anglais. Bon, d'accord, c'est vrai. Et puis, la petite voix à l'intérieur m'a dit, mais tu as un Nouveau Testament, donne-lui. Et alors, j'ai pris le Nouveau Testament et je lui ai donné. Et elle m'a dit, ah oui, ça m'intéresse beaucoup. J'aimerais bien le lire. Et puis, j'ai commencé à parler un petit peu. Et puis, elle s'est endormie. Et elle s'arrêtait à Limoges aussi, comme moi. Et elle est descendue. Elle avait rencontré un copain par Internet. Bon, ils se sont rencontrés. Mais ça ne me concerne pas, l'après, hein. Ce qui me concerne, c'est que à un moment donné, la petite voix me dit quelque chose. Et je dois le faire. C'est marcher dans le repos de Dieu. On n'est plus dans ses activités, dans son programme, dans voilà, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse ça, il faut. Vous avez des multitudes de choses. Et quand quelqu'un vient, que Dieu voudrait que vous parliez avec cette personne, vous ne pouvez pas le faire. Pour une raison, vous avez un programme écrasant de vos activités personnelles. Vous n'êtes plus disponible. Vous n'êtes plus capable de dire ah non. Je laisse tout et je fais ce que Dieu me demande. C'est le problème de gens qui sont tellement occupés. Si vous avez un agenda qui est occupé pour 2 ans, eh bien vous ne pourrez pas prendre un rendez-vous pour quelque chose d'urgent ou pour une personne qui a besoin de vos services et que vous puissiez l'aider et que vous puissiez l'encourager et la fortifier. C'est quand on entre dans le repos de Dieu, on devient brusquement complètement disponible. On est au service de Dieu, pas d'un homme, pas d'une organisation. On est au service de Dieu. Et vous pouvez même arrêter complètement quelque chose que vous avez entrepris pour entreprendre autre chose, parce que quelques petites voix qui vous disent à l'intérieur, fais ça, et vous le faites. Si on entre dans le repos de Dieu, dans la direction de Dieu. Et on n'est plus en train de chercher la volonté de Dieu. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui, c'est bien ou est-ce que ce n'est pas bien? Est-ce que je perds mon temps ou est-ce que je ne perds pas mon temps? Vous êtes au service de Dieu, dans toutes les directions où lui-même voudra vous conduire. C'est cela, entrer dans le repos de Dieu. C'est se mettre totalement à sa disposition et à son service. Et je vous dis, ce n'est pas une expérience, c'est une étape dans la vie chrétienne. Le peuple d'Israël a été dans le désert, a quitté l'Égypte, a été dans le désert, et un jour s'est trouvé à la porte de la terre promise, et Dieu a dit, entrez dans mon repos. Et le peuple d'Israël a refusé d'entrer dans le repos. Il a préféré la manne, l'écaille, pleurnicher sur son sort pendant 40 ans dans le désert. Et c'est un malheur, parce qu'ils auraient pu rentrer immédiatement dans le pays de la promesse. Ils ont ajourné cette étape, mais l'étape, ils ne l'ont pas faite à un certain moment, ils ont dû la faire plus tard, parce qu'elle est absolument incontournable. Donc c'est pour cela que je vous ai expliqué toutes ces choses. Il y a un repos de Dieu, un moment où on entre vraiment dans le repos de Dieu. On le choisit. N'attendez pas qu'un jour vous soyez dans une situation propice pour entrer dans le repos de Dieu. Vous dites, ah ben, je serai bien disposé à ce moment-là, quand Dieu choisira son temps et son heure. Combien de fois j'ai entendu cela? Dieu choisira son temps et son heure, et à ce moment-là, eh bien, je trouverai un chemin tout tracé pour faire ce que je dois faire. Eh bien, ça, c'est quand on ne veut pas prendre la décision. Alors, comme on ne veut pas prendre la décision, eh bien, on met la responsabilité sur Dieu. Et on dit, si je n'ai pas pris la décision, eh bien, c'est parce que Dieu ne m'a pas fixé son heure et son temps. Et c'est dommage. Parce que quand vous entendez la voix de Dieu parler à votre cœur, et vous dites, cette voix vous dit, ça, c'est le bon chemin, alors n'endurcissez pas votre cœur. Si aujourd'hui, la petite voix à l'intérieur se fait entendre, alors n'ajournez pas cette décision. Et dites, Seigneur, je te donne ma vie. Donne-moi toute la force, toute la sagesse, toute l'intelligence, toute la ténacité pour le faire et pour aller jusqu'au bout. Et te confier toute ma vie, renoncer à moi-même et remettre tout entre tes mains. Pour que toi, tu en sois le maître, pour que toi-même dirige ma vie. Que tu sois celui qui prend le contrôle de ma vie. Non pas moi, mais toi. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas mes plans, mais les tiens. Où tu voudras, j'irai. Conduis-moi dans ton chemin. Éclaire mes yeux. Ouvre mon cœur. Ouvre mon intelligence. C'est très important. C'est l'étape qui est devant vous. C'est le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est cette petite voix qui se fait entendre, c'est la parole de Dieu, elle va là où il faut. Vous lisez un passage biblique, vous êtes dans une situation, c'est comme cela. Ce passage qui est cité bien souvent pour parler de la parole de Dieu, eh bien, est dans ce contexte-là, de cette vie où on se consacre totalement. Et alors, cette parole, elle sait faire la distinction entre ce qui est charnel et ce qui est spirituel. Vous n'êtes pas capable de le faire. Mais vous dites, où est la volonté de Dieu? Vous vous posez des questions. Mais la petite voix, la parole de Dieu, elle va et elle dit, ça c'est le bon chemin. Et vous n'auriez pas discerné ce bon chemin si la petite voix vous l'avait pas dit. Et vous lisez un passage biblique et un verset qui vous interpelle et vous dites, ah oui, mais ça, le Seigneur me parle alors. Je veux écouter ce qu'il me dit. Vous avez lu parfois la Bible, certains passages, des dizaines de fois. Mais à ce moment-là, il y en a un, celui-là, cette fois-là. Eh bien, ce passage parle à votre cœur. Vous dites, ah, j'aurais tort de ne pas tenir compte de ce qui est écrit ici. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur m'arrête. Et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Cette petite voix, elle vous dit, ça ne va pas. Tu n'es pas dans le bon chemin. Tu n'agis pas comme il le faut. Gardez-vous de résister. Et puis, on termine avec le verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. On ne se cache pas de Dieu. Les décisions que nous prenons sont devant sa face. On ne peut pas prendre de demi-mesure sans qu'il le sache. On ne peut pas ajourner sans qu'il soit au courant. Il sait exactement où est notre cœur, où nous en sommes. Il pèse nos pensées. Il sait exactement toutes choses sur nous, même mieux que nous. Et si nous disons, Seigneur, je n'y arrive pas, ou Seigneur, je ne comprends pas, il sait jusqu'à quel point nous ne comprenons pas, ou si c'est une excuse pour ajourner, pour mettre plus loin. C'est ce qui est dit ici. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est important de placer sa confiance totale en Dieu et de regarder vers lui, lui dire, Seigneur, prends tout, je te remets tout. Et ça, à partir de ce moment-là, cela s'appelle la vie par la foi. On marche par la foi, on lui fait confiance. Chaque jour est une nouvelle aventure, chaque jour est différent. Vous ne pouvez pas prévoir ce qui va arriver dans la journée. et Dieu peut vous conduire et peut vous faire prospérer, faire prospérer votre vie chrétienne pour qu'elle soit porte du fruit en abondance et pour que vraiment ce fruit soit la gloire de Dieu. Et c'est cela qui est le plus important. Le reste compte pas pour grand-chose. Que votre nom soit connu ou qu'il soit pas, ne soit pas connu, que vous soyez ceci ou cela, ou tout cela n'a aucune importance. Ce qui a de l'importance, est-ce que je marche dans la volonté de Dieu ou est-ce que je marche en dehors de la volonté de Dieu? Est-ce que je marche dans le plan de Dieu ou est-ce que je n'y marche pas? Est-ce que j'endurcis mon cœur? Est-ce que je me trompe par de mauvais raisonnements ou est-ce que je me confie totalement en Dieu, dans sa parole? Et que je lui fais confiance pour l'avenir, pour tout ce qui est devant moi. Et je peux vous dire, c'est merveilleux de vivre une vie où Christ prend la première place, où il est assis sur le trône de votre vie, et où c'est lui qui dirige. Et vous savez, c'est là que l'on est dans le repos de Dieu. Il n'y a plus d'inquiétude. Il n'y a plus de qu'est-ce que les choses vont se passer comme ceci ou comme cela. Ça ne veut pas dire que nous sommes des inconscients et qu'il n'y a pas, on ne se pose pas ce genre de questions, mais au fond de soi-même, on dit Seigneur, qu'importe, tout sera comme toi, tu vas le décider. Je remets ma vie entièrement entre tes mains, conduis et dirige, je remets tout. Et c'est bon le matin de se lever et de lui dire Seigneur, cette journée est sous ton regard, je te la remets, fais-en ce que tu veux. J'aimerais bien te servir. Donne-moi des occasions de te servir, d'être un bon témoignage. Que ta lumière resplendisse en moi, autour de moi. Que tu sois honoré et glorifié par ma vie. Et c'est là que nous menons une vie utile, une vie que Dieu approuve. C'est la vie que Dieu en réserve pour ses enfants. Ce n'est plus une vie médiocre, une vie chrétienne où on est insatisfait, on se dit, oh, ça aurait pu être mieux. Mais c'est une vie où Dieu est glorifié. Et c'est cela le plus important. Tout le reste peut disparaître. Il faut que Dieu soit glorifié.